Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Nous sommes le 1er juillet 2015. C'est le début de l'été. Nous allons célébrer ce moment si particulier, de chaleur et sentiments mélangés. Retour en arrière, nous sommes au mois de juillet 2009. Il sera double. Deux mois de juillet, celui de Vincent Dieutre, celui de Gilles Collard. 07-09 multiplié par 2, c'est au départ un livre à quatre mains. Deux journaux qui se croisent, se répondent, sans vraiment se rencontrer. Comment nos mémoires peuvent se croiser, créer un nouveau récit une fois tressé, une fiction collective? Comment l'addition des souvenirs forme une nouvelle langue? Ce sont des vies contemporaines, faites de fragments, de l'envie d'aimer et de contraintes parfois. Des sentiments vagabonds, des chansons partagées, des voyages évoqués, du désir et des pensées. Et partout dans le monde, de nouvelles façons d'aimer. 07-09 x 2, le livre, est devenu une performance et devient ce soir de la radio. C'est une nouvelle lecture, un grain nouveau. Ce sont les deux journaux, et avec un souci d'exactitude dans les dates, des extraits de journaux d'artistes, d'écrivains, de créateurs. Ce seront les mois de juillet de Baudelaire, Stendhal, Isabelle Eberhardt ou encore Brian Eno ou Lars von Trier. C'est un fond commun de sentiments, d'émotions. Un nouveau récit, très intime et très collectif, un cœur. Voilà, pour ouvrir l'été, la superposition de mois de juillet, l'addition des sentiments. 07-09 x 2, projet radiophonique de Gilles Collard et Vincent Dieutre, réalisation Manouchak Fachaï.
Vincent Dieutre, Gilles Collard.
Oui, moi, spécialiste d'autobiographie, je n'aimais plus l'autobiographie avec un grand A. Mais je rêvais de textes autobiographiques morcelés, datés, suivant souplement au fil du temps, comme un journal, les métamorphoses d'une vie. Le journal est d'abord une pratique de vie et une pratique d'écriture. On ne peut l'étudier uniquement sur des livres, pour deux raisons. La première est qu'il est, pour celui qui le tient, une trace unique, un peu comme une œuvre d'art. Le papier, l'écriture, les décorations, les documents joints en font une sorte de reliquaire. Et sa taille, souvent immense, s'accommode mal de la forme du livre, qui oblige à des coupures. La seconde raison est qu'il s'écrit des millions de journaux et qu'on en publie chaque année un tout petit nombre qui se compte en France par dizaines. Peut-on être sûr que la partie publiée soit une image fidèle de l'ensemble ? Non. Et l'on peut même être sûr du contraire. Par exemple, en France, 85% des journaux publiés ont des hommes pour auteurs, alors qu'on sait que ce sont majoritairement des femmes qui tiennent des journaux. Pour moi, un journal est une série de traces datées. J'avais eu à définir l'autobiographie parce que ses frontières avec la fiction étaient poreuses. Rien de tel avec le journal. Si vous inventez votre vie dans votre journal, ce ne sera pas de la fiction, mais du mensonge vis-à-vis d'autrui, ou de la folie en ce qui me concerne. Parmi les gens que vous croisez dans la rue, combien tiennent ou ont tenu un journal ? Paris, 1er juillet 2014. Ce matin, Étienne a pris l'avion pour Venise. Sur le chemin de la Biennale, il m'écrit « On est sur le Vaporetto, sur le Grand Canal, c'est sublime. » J'ai accepté la proposition de Vincent et je vais participer à la performance que lui et Gilles Collard reprennent au Point éphémère. Ils ont chacun tenu leur journal intime en juillet 2009 et les lisent en se coupant, se chevauchant, se superposant. Je me demande un peu ce que je vais faire là-dedans, mais bon, c'est trop tard, j'ai dit oui.
Toi, t'es au 4.
Est-ce que ça tourne ?
Oui, je crois que ça tourne. C'est bon ? Ok.
Beyrouth, 1er juillet 2009. Arrivé dans l'après-midi à Beyrouth, l'été libanais nous tombe dessus comme une gifle chaude. La mère de Daniel nous a donc déposé place Sassine, à Achrafieh, attente du cousin de Daniel pour récupérer une clé de l'appartement. On parle du travail à faire sur le scénario de chambre d'hôtel. Et le café de chaise de la place Sassine devient-il l'ICO, le QG du séjour béroutin? Immeuble 60 assez beau. L'appartement est immense, un peu délabré, mais frais. Je ne dois pas ouvrir le volet du bureau pour protéger les beaux plans d'architecte que Georges, le cousin de Daniel, extrêmement sympathique et généreux, entrepose encore ici. Quartier chrétien, klaxon. Plus tard, Daniel rejoint sa famille à Rabier. On travaillera demain. 20h. Premier rendez-vous avec le mystérieux Joe, connu sur Internet. Je le retrouve au Chase où il m'attend. Français impeccable, œil bleu gris, voix de velours. Bel homme, souriant, visiblement habitué aux lapins et à l'inconséquence des gays locaux. Il ne cache pas sa joie de me rencontrer. Il croyait que j'étais marié, avec Daniel sans doute. Il dit que c'est mieux d'être marié au Liban. Cheveux blancs d'argent, costume de lin, œil d'émeraude, rien du cliché oriental si ce n'est la délicatesse. On parle, je mange quelque chose car je n'ai pas dîné. Il n'en dit rien, mais je sens qu'il est pressé, chaud comme on dit. Je le rassure, on ira chez moi après. En réalité, Joe se nomme Mohamed. Ce n'est pas un athlète, mais je me sens bien avec lui. Tendre. Je vais te niquer, répété comme un mantra. Il reste un peu après avoir joui. Sa vie est compliquée. Nous devons nous revoir le surlendemain, entre 19h30 et 20h, précis. Il me touche. Première nuit seule dans l'appartement, je marche sur un préservatif abandonné par Joe et Mohamed. Consigne de Georges, ne pas se balader nu dans l'appartement. Tout le monde épie tout le monde à Beyrouth. Je le fais quand même, bien sûr. Dénoue la serviette autour de ma taille. Vent frais, délicieux sur ma peau. Obscurité, klaxon.
Bruxelles. 1er juillet 2009. La dernière fois que j'ai vu Rose, c'était le 25 juin, à la terrasse du restaurant Kaki, chaussée de Waterloo. Une petite fête pour son anniversaire. La première phrase du livre de Baudouin de Bodina, que j'ai lu ce printemps, La vie sur Terre, me va parfaitement pour entamer ce journal de l'été. Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise, à quoi penser? Sortir, prendre un café au Belga, je n'y arrive pas. Je rumine et me consume à la recherche de l'indolence, alors que j'ai mal. La deuxième fois depuis 3 ans, depuis que j'ai quitté Cybèle. 2 juillet 2009. Atterré par l'entropie du monde, je veux dire, le mimétisme, les réflexes, le goût commun des gens qui nous entourent. Les filles sont belles, seul cela me procure une légère émotion. En surface, totalement, je ne m'attache qu'aux sensibles. Incapable d'aller même voir un film. Le matin était beau pourtant. Comment fait-on comprendre aujourd'hui? On regarde autour de nous et le constat doit s'imposer que peu de gens sont encore capables de recevoir, d'entendre, d'écouter, de sentir, de percevoir dans une quête du bien, de l'émancipation et de la grandeur. Dernier numéro de la revue Ligne de Risque, je lis ceci. Peu importe que le monde soit truqué, ce qui compte, c'est la guerre entre la damnation et le salut. Depuis plusieurs jours, il fait une chaleur lourde et enveloppante à Bruxelles. Depuis notre dispute, elle me ramène à toi, Rose. Sans que je sache si elle me veut du bien. Mais elle est là, comme un coton ouateux, qui maintient ce qu'il y a eu entre nous d'amour.
Beyrouth, 2 juillet 2009. Daniel a un peu peur pour ma sécurité ici et me pose toutes sortes de questions sur ma rencontre avec le banquier sunnite. Je la rassure et corrige sa vision pasolinienne de l'homosexualité, de la mienne en tout cas. Rien à craindre de Joe Mohamed, c'est lui qui a peur, bien plus que moi. 18h. Gentiment, Daniel me laisse seul. Mohamed ne va plus tarder. J'espère que j'ai assez de préservatifs dans mon sac de voyage. Je vais te niquer. Mais de plus en plus tendre. Mohamed se raconte plus, sa vie rangée et opulente, sa femme si douce, ses enfants si aimants, et la banque si suisse. Il est hors de question de divulguer ici son vrai prénom. Il restera désormais Mohamed, le banquier sunnite, l'homme aux horaires impossibles.
Puis,
en fait, je l'aime beaucoup.
Samedi 11 juillet 1896.
Sinon, je balancerai son nom sans hésiter.
Journal de Catherine Pozzi. Je suis d'une humeur massacrante. Maman recommence à être froide et indifférente avec moi. Elle ne caresse que cet emplâtre de Jean qui lui fait croire qu'il l'aime et qui est toujours mauvais comme une gale. Que je voudrais qu'il meure. Que je voudrais qu'il ne soit jamais né. Je le déteste. J'ai toujours tâché de me faire aimer de lui. Jamais je n'ai pu. Tant pis pour lui maintenant. C'est la lutte. La guerre acharnée. Je le hais.
Bruxelles, le 4 juillet 2009. Demain, je partirai pour Venise. Ce soir, il y a fête chez Alexandre. Ah, les fêtes chez Alexandre. Nous commençons au champagne, blanc ou rosé, directement ramené de Reims. Jeans moulants pour Rosario, chemise légèrement fleurie. Il est beau, saillant, visage lame de couteau. Il faudrait que je prenne le temps de décrire Alexandre, de dire ce qu'il représente pour nombre d'entre nous. Un pied dans la mélancolie, et un pied dans l'époque. La soirée se poursuit à toute allure. Musique, danse, le miroir est sur la table. Chacun se sert allègrement et tout le monde est heureux d'être là. Comme souvent, tard dans la nuit, Aline, la compagne d'Alexandre, va dormir et nous décidons de prolonger à l'Archiduc avec Nicolas, Alexandre et Fabienne. Il doit être 6 heures, le nouveau portier ne me connaît évidemment pas et un barman doit intervenir pour lui dire que nous sommes de vieux habitués, bien gentils, et qu'il n'y a aucune crainte à avoir avec des loufoques de notre espèce. Ensuite, direction la place du jeu de balle, pour y manger une nourriture approximative. Il fait doux, nous sommes sur la terrasse, y buvant du coca ou de la bière.
Et devrais-je mourir 1000 fois pour le protéger?
Dans 4 heures,
si je le pouvais,
nous embarquons pour Venise.
Je mourrai 1000 fois de grand cœur.
Klaus Mann, New York, 5 juillet 1943. La pensée de Tomsky ne me fait plus souffrir. Il est vrai que je pense encore plus souvent à lui que je ne le devrais. Mais cela ne m'énerve plus. J'en ai fini avec lui. Il est allé trop loin. Les éléments méchants de son caractère complexe sont passés au premier plan de manière effrayante. L'effort le plus passionnel, le plus constant de sa vie, attirer quelqu'un, le garder, se termine par un échec crasse.
Beyrouth, 4 juillet 2009. Je me poste sur ma terrasse de l'appart. Beyrouth inondé de soleil. Me décide aussi à envoyer un SMS à Simon qui me manque terriblement, par vagues sourdes et suffocantes. Je le sais heureux, loin de moi. Je n'ai aucune place dans ce monde clos qui le happe chaque été un peu plus. Je n'ai plus prise sur lui que via ses petits signes épars qui n'ont pour but que lui rappeler mon existence loin de lui. J'ai si peur qu'un jour, le petit espace clandestin que j'occupe dans sa vie ne se referme derrière moi.
Je n'éprouve aucune honte à faire l'amour avec toutes sortes d'autres corps, mais dormir contre quelqu'un d'autre, sur notre territoire à Paris, me paraîtrait obscène. Cela peut sembler une idée un peu tordue de la fidélité, mais je me comprends. Il a toujours eu un peu peur d'être simplement venu combler le vide laissé dans ma vie par la mort de Tom.
Je n'ai même pas la moindre culpabilité à chercher ailleurs. Aucun contrat ne nous lie que ce besoin aveugle d'être ensemble lorsque nous sommes à Paris, de nous retrouver, stop ou encore à chaque fois. SMS à Simon. Mac en panne, muezzin, klaxon, jasmin, terrasse, soldats en nombre, si jeunes, et la mère, miss you, V. Encore Simon, encore.
Venise, le 5 juillet 2009. Peu dormi donc, mais bien arrivé. Vaporetto depuis Piazza di Roma jusqu'à Cadoro. Surprise, le nouvel appartement dont Alexandre peut jouir à sa guise toute l'année, selon quelques planifications amicales, se trouve dans le même quartier, le haut du Cannareggio, que celui où j'ai vécu il y a 2 ans, une petite semaine, avec Pierre et Sébastien. Pour moi, Sébastien est dans ces eaux de Venise, que décrit Henri de Régnier. Il loge quelque part dans cette géographie de l'âme, rare. Je commence à sentir la fatigue. 2 heures de sommeil, cela n'a jamais été suffisant pour moi. Mais le vin blanc que nous commandons en quantité à la Nice Stellato me fait oublier ces douleurs. J'en abuse, sans m'en rendre compte, je me laisse porter. Je vois le canal sur le long de cette Fondamenta, j'ai envie de m'y allonger, de flotter, de m'enrouler dans ses eaux. Nous rentrons à l'appartement comme dans un rêve. J'ai l'impression d'être saoul comme à 16 ans. Je ne marche plus droit et me laisse envahir par une force fragile et inconnue. Nulle tristesse, nul enthousiasme contraint. C'est le repos et la certitude d'une ombre parmi les ombres. C'est Venise, sa pénombre dit après, la magie mauresque de son architecture, la chanson nostalgique du Canal Grande, écrit Klossmann. Vous êtes tous là, vous vous reconnaîtrez sans peine.
Beyrouth, 5 juillet 2009. SMS Saeb. Oui, je peux être near Sassine now. I'm okay if you have time to meet and want to for hot time. Saeb. Je le retrouve au chaise. Il se planque d'abord à l'intérieur pour m'observer. J'ai dû ne pas trop le décevoir car il ressort et fait semblant d'arriver à l'instant vers la terrasse. Vif, trapu, chaleureux. Pas mon genre pour un sou, mais je ne résiste pas à lui proposer de monter à l'appartement. Il me suit. Sexe rapide, classique, standard. Il sent très bon et sa peau est douce. Il veut me baiser debout devant la glace de la chambre. Comme tous les Méditerranéens, il parle tout en faisant l'amour, en français, pour que je comprenne. C'est meilleur qu'avec une femme. C'est tellement mieux. Je suis bien dans ton cul. Mieux qu'avec une femme. Tout est mieux.
Journal de Lars von Trier, Copenhague, 15 juillet 1997. Il est 2h30 du matin. Non, 3h20. Et je n'arrive pas à dormir, comme d'habitude. J'ai bu de la vodka, pris des pilules et... Merde.
Venise.
Ah non, c'est trop cool.
Le 7 juillet 2009. Quand nous longeons le grand mur de l'Arsenal, je me demande si ce n'est pas exactement ici que Debord a filmé des plans d'In Jérôme. La ressemblance est flagrante, je ne crois pas me tromper. Le ciel est menaçant, il y aura de l'orage. Nous rentrons dans la Biennale, je vais toujours vite dans ce genre de manifestation. Il commence à pleuvoir. Nous nous retrouvons avec Nicolas et Alexandre dans le pire pavillon. Je ne sais plus lequel, mais le pire. Pour nous protéger d'une pluie diluvienne. Sensation agréable d'enfance, de protection, de chaleur, en observant le dehors mouillé et comme lavé. C'est comme si une partie de ma vie de ces dernières années pouvait tranquillement s'y écrire en demi-teinte, par soubresaut, à l'abri des tumultes et dans une conversation secrète avec la communauté des amants. Dîner parfait, le soir, dans un restaurant près de l'appartement. J'oublie mes lunettes de soleil.
Paris, 11 juillet 2009. Le week-end commence sous un soleil délicieux. Mon studio de Bonne Nouvelle a l'avantage de garder la fraîcheur de la nuit, puisque pratiquement aucun rayon de soleil n'y entre, sauf vers 14h les jours de grand beau. Le distant banlieusard d'Internet, un des seuls qui sache formuler et écrire une phrase complète et cohérente sur le site de drague, propose que nous nous voyons en fin de matinée. Je n'aurais jamais dû accepter, mais je ne sais pas dire non. Toujours ce besoin panique d'être désiré, aimé peut-être. j'ai retrouvé le banlieusard au café. Il m'attend sur un banc du boulevard et je l'emmène sans conviction vers le studio. Penn n'est pas un très bel homme. Transpirant, mal habillé, il arbore la mèche rabattue à la Giscard.
Cherchait.
Il s'avère un amant peu décidé, mal habillé.
6 juillet 1958.
Mais dès le premier regard, je comprends aussi que
journal d'un appelé d'Algérie.
Incapable de cette
Nous avons été obligés de donner notre sang,
qui préside
un demi-litre, pour les blessés. Le médecin, m'ayant trouvé un peu anémié, m'a demandé si je voulais ou non être donneur. J'ai accepté. Ce qui devait arriver, arriva. En pénétrant dans la salle à manger, j'ai été pris de faiblesse et je me suis évanouie. L'entraînement n'a pas diminué pour autant, et à la fatigue de cette opération s'est ajoutée la fatigue des différents parcours du combattant, des marches de nuit, des exercices de combat.
Bruxelles, Venise, le 11 juillet 2009.
Ouais, je vais le refaire.
Alors, retour de Venise. Il faut se lever tôt, très tôt. J'ai peu dormi. Aller vite et prendre le bateau sur la Fondamenta qui nous conduira directement à l'aéroport. Vol, arrivée, train jusqu'à Bruxelles. Sur le marché Sainte-Catherine, nous croisons le voisin d'Alexandre. Il nous dit « Je ne sais pas d'où vous venez, où vous allez, mais en tout cas, vous n'avez vraiment pas l'air d'être là où vous devriez être. »
Paris, le 13 juillet 2009. Paris me fait peur. Je dois reprendre le script de Beyrouth. Négociation avec Daniel chez Jeannette.
Assis dans le Thalys, mon esprit vagabonde et associe, sans conséquence, ce que Dante est en train de me dire du salut. Et ce parfum de ma voisine si ressemblant à celui de Rose.
Déjeuner avec l'éditeur de cet ouvrage. Pas de mise en abîme, on a dit. Mais plaisir de revoir à cette occasion Jean-Charles Macéra, qui vit maintenant à Berlin.
Je retrouve Vincent et Virginie sur la terrasse du café de la ville, le repère de Vincent, qui a son bureau juste à côté, rue d'Anguin. Jean-Charles Macéra, qui connaît Vincent de longue date, accompagne Virginie. Nous faisons connaissance et sympathisons, c'est très agréable. Il est discret, réservé, et en même temps fougueux et rapide dans ses raisonnements. Cybelle m'écrit ceci. T'énerve pas, grand Gilles, on n'est pas sur la même longueur d'onde, sur ce coup, c'est pas bien grave. Ne le prends pas mal, mais je t'avoue que je n'arrive pas vraiment à compatir avec ce genre de blues. Ça te passe toujours bien vite. Tu auras une nouvelle majorette.
Tu auras une nouvelle majorette.
Tu
récupéreras sûrement celle qui est jalouse. Si tu fais un petit effort et puis tu trouveras bien une combine ou l'autre pour récupérer un peu d'argent. Allez dépenser à Venise, à l'Archiduc ou à New York.
Plaisir de revoir à cette occasion Jean-Charles Macéra, qui vit maintenant à Berlin. On se verra à la fin du mois là-bas. Voyage interminable pour Albi, travail sur ce journal et lecture des Inrocks. À la gare routière, il est là qui m'attend, à 11h28. Et je le découvre en vrai, dans la nuit. JM est l'un des mecs les plus sexy que j'ai connus. Une sorte de résumé de tout ce qui m'attire chez un homme. Seule réelle surprise, l'accent prononcé et rugueux du sud-ouest, la camionnette blanche qui casse un peu l'image glamour de youpi albigeois que je m'étais faite de lui. Mais c'est encore plus sexy. Et last but not least, il fume. On s'arrête boire un verre sur la place de la cathédrale, où il semble connaître tout le monde. Arrivé tard dans la maison plutôt vilaine mais sympathique, il se connecte et j'ai peur, enfin un peu peur. Le vertige. Le vertige.
Puis, lundi 8 juillet 1896, journal de Catherine Pozzi. Il y a aujourd'hui 5 jours que nous sommes à Puy. Papa est venu passer 2 jours. Il vient de partir. Ah, quelle nuit! Quelle nuit! J'ai commencé cette nuit le rude apprentissage des douleurs de la vie. Ce matin, je suis réveillée en sursaut par des voix dans la chambre à côté. C'était papa et maman. Je n'avais jamais cru jusqu'ici au pressentiment, mais maintenant j'y crois. Je saute de mon lit à la hâte. Une angoisse atroce me remplissait. J'entre dans la chambre et je vois papa faisant à maman des piqûres de morphine. Ah, la mort que j'ai sentie si près. Maman souffrait beaucoup. Pas de remède. C'est atroce.
Journal de Lars von Trier, Copenhague,
14 juillet 1997. Hier, nous avons eu la visite de Mongoliens qui étaient vraiment gentils et braves. Ce qui est intéressant, c'est que les débilités des professionnels étaient beaucoup moins grossières que ce que font nos débiles amateurs. Mais je suis quand même très satisfait de nos débiles de fiction, et je crois aussi que ça passera très bien dans le film. Mais sinon, tout était très plaisant, et après avoir tâté mes couilles pendant quelques semaines, je me suis un peu calmé, et pense que ce n'est sans doute pas là que le cancer s'est installé. Nous verrons.
Albi, 14 juillet 2009. Soirée feu d'artifice chez des amis de JM dans une jolie maison moderne, tout en bois. Le propriétaire connaît et suit le travail d'Alain Guiraudy, qui vit à Albi, et dont JM ignore tout. Le plus étonnant est qu'ils ne se connaissent même pas. JM étant, je le sais, tout à fait dans les goûts plébéiens d'Alain, et les deux hommes vivant dans la même petite ville depuis toujours. Je regarde JM jouer avec les enfants de la maison, et saisis d'un coup que c'est l'enfance qui me charme en lui. La vitalité neuve de son regard bleu, cette aisance à jouer, à rire, à oublier. JM et moi n'avons rien à faire ensemble. Je suis envieux. Oh la belle bleue, le feu d'artifice a commencé. Notre hôte passe l'international par les chœurs de l'armée rouge, puis la messe pour le temps présent. Deuxième rapport sexuel non protégé, un peu brutal, très excitant. JM surjoue un peu, une forme de politesse, il est déjà ailleurs, dans l'autre histoire. Sur Internet. Il essaie de m'enfoncer un gode dans le cul. Pendant qu'il me baise, il accessoirise. Je lui murmure que je ne veux que du vivant en moi. Il n'insiste pas. Dehors, un orage presque silencieux, mais dont les éclairs soulignent le visage un peu triste de JM. C'est magnifique. Je lui lèche le cul et là, je crois qu'il aime vraiment. Je le baise un peu. Peur de lui faire mal, de le perdre. Non, il aime, on jouit, c'est fini.
Albi, 14 juillet 2009. Deuxième rapport sexuel non protégé. Un peu brutal. Très excitant. JM surjoue un peu. Une forme de politesse. Il est déjà ailleurs, dans l'autre histoire. Il essaie de m'enfoncer un gode dans le cul pendant qu'il me baise. Il accessoirise. Je lui murmure que je ne veux que du vivant en moi. Il n'insiste pas. Dehors, un orage, presque silencieux, mais dont les éclairs soulignent le visage un peu triste de JM. C'est magnifique. Je lui lèche le cul, et là, je crois qu'il aime vraiment. Je le baise un peu, peur de lui faire mal, de le perdre. Non, il aime. On jouit. C'est fini.
Knokke-le-Zoute, le 21 juillet 2009. Je repense ce soir à ce moment sur la plage, cet après-midi. Il faisait beau et presque chaud. Lucas jouait sur le sable avec ses petits soldats. Tout à coup, c'est l'orage. Quelques gouttes seulement, qu'il annonce, et ensuite c'est le repli. Le rapatriement général de centaines de personnes vers les cabines de plage ou sur la digue, sous les terrasses d'immeubles. Je rentre dans notre cabine et n'ai absolument pas le courage d'insister pour que Lucas vienne se mettre à l'abri. Tellement j'aime l'observer. Seul maintenant, sur l'immense plage désertée, regardant autour de lui, comme un lumineux spectacle de désolation soudain, il donne le sentiment de vouloir conquérir l'étendue vierge, de se mettre de connivence avec les éléments, sentant la fraîcheur le saisir, y trouvant du plaisir. Il est seul,
au
milieu de la plage, virevoltant.
Virevoltant.
Une idée simple, une idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais une idée toutefois de l'innocence. Et je ne peux m'empêcher de la mettre en contraste, cette idée, avec ces messages que j'ai encore reçus de Rose par SMS. Même si j'ai envie de tout oublier, de tout lui pardonner. que j'ai beau en moi trouver la force d'un détachement sincère, je ne peux qu'être affecté par ce que je lis.
Le soir, je me retrouve plus calme, apaisé en amour. Comme cela ne m'était plus arrivé depuis longtemps. Les messages, bien sûr, y sont pour quelque chose. Toujours délicats, attentionnés, gorgés de désirs non dissimulés, honnêtes et beaux, tout simplement. Et il a suffi aussi de cette petite promenade avec Lucas et sa glace, sur la digue, sur le sable, le long de la mer, pour me retrouver en deux secondes avec lui, bien, heureux, enchanté par sa présence, ses mots et ses phrases. Nous avons mangé auparavant, à deux, comme cela m'a fait du bien.
Journal de Klaus Mann, New York, 4 juillet 1937. Rêver d'une injection de morphine. Je lis toujours des poèmes, comme stimulant pour mon travail. Aujourd'hui, Werfel, Baudelaire. Un fragment en prose de Rilke, L'heure de gymnastique. Un autre, Rencontre. Si Kafka a pris des leçons quelque part, c'est certainement ici.
Knokke-le-Zoute, le 22 juillet 2009. Alors c'est l'histoire d'un mec, au début du 21e siècle, il a 33 ans, il a déjà été marié, il a un enfant, etc. Cet après-midi, je mets Lucas sur le vélo et nous partons ensemble chez Siska. D'abord en prenant la digue et puis par les petites rues du Zoute. Le temps est doux, le ciel limpide, il n'y a qu'une légère brise qui rafraîchit mes efforts. Et c'est toute mon enfance qui défile. Je vois le côté un peu vieille famille, pas mon genre, qui lirait à dire ma joie d'emmener mon fils dans un lieu où moi-même, j'ai passé des heures à jouer, alors que mes parents ou ma mère, plus généralement, m'attendaient à une table pendant des heures à siroter du café. Mais c'est avec Siska, ce restaurant plein de jeux, devenu avec les années de plus en plus chic, mais c'est peut-être mon regard d'adulte qui me fait dire cela aujourd'hui, tout simplement. Et avec Siska seulement, que j'arrive à assumer cette joie d'un héritage, de la filiation, de ce qui tient entre les générations. Et mon plaisir n'est pas fin en ce jour.
Cherchel, 10 juillet 1958. Journal d'un appelé d'Algérie. C'était un bien sombre vendredi. Nous achevions péniblement une semaine de nomadisation et j'étais cafardeux à l'extrême. Couché dans une grange sur de la paille recouvrant la terre battue, ne pas avoir de lumière, d'eau pour boire ou pour se laver, crapahuter toute la journée et la moitié de la nuit. Je n'ai dormi durant cette semaine qu'une seule fois, 6 heures, et les autres 4 heures. Monter la garde, voilà tout ce que nous avions le droit de faire. Et puis après, je suis revenue ce matin, sac au dos, arme en bandoulière, crevée, sale. J'ai pris une douche, 2 douches, 3 douches. J'ai porté un monceau de linge à laver à ma Fatma. J'ai tout rangé. J'ai dormi un peu et j'ai déjà tout oublié. J'ai oublié la mitrailleuse qui nous servait de berceuse. J'ai oublié les pauvres gosses arabes, affolés, devant qui les félagas avaient égorgé leur mère et violé leur sœur. J'ai oublié les embuscades. J'ai oublié. La seule chose qui me reste, c'est la constatation de l'existence envahissante des gens. J'ai souffert de sentir combien chacun remplit tout l'espace, le monde entier par sa présence, par son existence. Il ne reste de place pour rien ni personne. Les individus rient, parlent, existent d'une façon scandaleuse, excessive, dramatique.
Paris, 18 juillet 2009. Séance de travail avec Daniel Arbid, qui continue de retoucher notre scénario de Beyrouth. On se retrouve chez Jeannette, rue du Faubourg Saint-Denis. Je ne résiste pas au plaisir de me replonger dans les histoires imaginées à Achrafieh. Je sais qu'il est difficile d'admettre que c'est fini, bouclé, et qu'il faut tourner la page. Mais il faudrait cesser les repentirs, les ajouts, les trouvailles. Car nous risquons de mettre en péril la tension scénaristique juste de l'ensemble si savamment méditée à Beyrouth. Sur le net, dans la nuit profonde, l'architecte de Gênes me confirme qu'il sera lui aussi à Berlin vers le 26. Somnifère. Paris, 23 juillet 2009. Arnold est venu rue d'Enghien, portant avec lui toute l'énergie du film sicilien en devenir. Il m'oblige à préciser les choses, à savoir ce que je veux. Tout nous porte en effet à rester flou, vague, tant l'épreuve du tournage semble lointaine et improbable. Mais la présence d'Arnold et la responsabilité que je prends vis-à-vis de lui en l'embarquant dans le film m'obligent à rendre le processus irréversible. Et c'est ce que nous faisons. Après une lente et méticuleuse recherche sur Internet, nous dénichons deux allers-retours Paris-Palerme-Paris pour 250 euros, moins que le train pour Albi. Et le mal est fait, je tourne Orlando Ferito, comme Gide répond, j'écris palude à ceux qui l'interrogent sur le sens de sa vie actuelle. SMS de Simon. Chamagnac, fin des roses et début des lys. Orage et famille, je t'embrasse.
Copenhague, 15 juillet 1997.
Journal de Lars von Trier. Voilà le journal qui arrive. Il est 3h du matin et je n'arrive pas à dormir. Et je dois envisager de me satisfaire moi-même pour la 5e fois pour m'endormir. Mon pauvre sexe. Putain.
Paris, le 25 juillet 2009. Rejoins Gérard et Daniel au restaurant du BHV, puis café dans le Marais. Lecture et écriture à la terrasse du café Beaubourg jusqu'à ce que Victoire me rejoigne. L'intelligence de Victoire est intuitive. Les choses prennent bonne tournure en elle avant d'arriver au langage, ce qui est assez rare de nos jours, où l'on peut constater que tous les réflexes sont avant tout bavards. Nous prolongeons ce moment en prenant des bières dans un autre bar, avant de rejoindre la place de l'hôtel de ville, où vont jouer Joseph et Sybille dans quelques instants. Nous rentrons sans difficulté dans le coin VIP et nous tombons sur Sybille qui attend que le show précédent soit fini pour installer les pédales, comme elle dit. Comme à son habitude, elle est à la fois extrêmement chaleureuse et distante. Gérard et Daniel nous rejoignent très vite. Tout le monde est conquis. À la fin du concert, il est émouvant de voir Sybille serrer sa fille, Pouma, très longtemps dans ses bras, devant sa propre mère. Je salue Joseph et le félicite. Il est pareil à lui-même, généreux et obscur, extrêmement fuyant. Le dîner, vers 23h30, chez Daniel et Gérard est délicieux et convivial. Mais Gérard va dormir un peu plus vite que prévu, assommé par son joint. Couché heureux, après avoir passé l'après-midi avec des gens que j'aime et admire profondément. Victoire, Gérard, Daniel, Sybille et Joseph.
Journal de Cesare Pavese, Turin, 20 juillet 1950. Une personne qui te laisse entendre qu'elle vit à sa façon, qu'elle a des idées, qu'elle te juge toi et les autres, qu'elle se passe de toi, est déprimante.
Turin.
Il n'y a qu'à l'ignorer, Paris, à la traiter comme elle te traite.
Berlin.
Beyrouth.
Knokke-Lesoth.
On ne peut pas finir avec style.
18 juillet.
New York.
21 juillet. Maintenant, la tentation d'elle.
Simon.
Puis.
Simon.
Simon.
Catherine Pozzi.
Simon.
Rose.
Vincent.
Berlin, 25 juillet 2009. Arrivé à Tegelto dans la matinée, timide rayon de soleil sur Berlin. Déjà, comme je n'ai pas eu le temps de payer mon ticket pour la navette, j'ai fraudé et la culpabilité me tombe dessus comme une honte panique. Je descends au plus vite à la Hauptmannbahnhof, flambant neuve, pour régulariser ma situation, comme on dit à la CEDIC, et découvrir que le S-Bahn, qui tisse avec le U-Bahn la mobilité indispensable dans la ville, est bloqué pour 6 mois. Bref, au-delà du fait que tout va être plus compliqué, D'où vient que le défaut de titre de transport puisse ici me mettre dans un tel état? Qu'une fois dans Berlin, traverser au seul feu rouge semble un devoir si impérieux. Chaque fois à Berlin, le même phénomène se répète. Au sortir de l'avion, du métro, du taxi, c'est l'histoire elle-même qui vous saute à la gorge. Berlin, apparemment si légère, si moderne, si douce, et qui s'est pourtant, au détour d'une avenue, rappelé en cascade les leçons du siècle passé, le naufrage des récits émancipateurs et la folie du monde. Mais Christophe Pellet, mon ami et voisin à Bonne Nouvelle, m'attend, levé tôt pour l'occasion, et la douceur de la vie reprend ses droits, l'espace d'un trajet Alexanderplatz, Rosenthalerplatz. Rosa Luxembourgplatz.
Juillet 2009.
Simon.
Rose.
1er juillet 2014.
Weinberg Park.
Beyrouth.
12 juillet 1958.
Ashrafieh.
Alexanderplatz.
Klaussmann.
Puis.
Rosenthalerplatz.
3 juillet 2014.
Paris.
Bonne Nouvelle.
Moritz.
Simon.
Knokke-Zoute.
Rose.
Rose.
Simon.
Rose.
Lucas.
Kreuzberg.
Albi.
Lou.
Berlin.
Berlin, 26 juillet 2009. Je m'installe dans ma jolie chambre, que Christophe appelle le catafalque de Veteranenstrasse. En fait, Christophe s'est fait prêter l'appartement de Moritz et Bruno, le Bruno qui me plaît tant et qui incarnait Wojtek dans la production d'Avignon. J'aime bien cet endroit, qui s'organise tout autour de la salle de bain. Passage obligé qui rebute la pudeur maladive de Christophe, mais on s'y fait. Il y a un piano et une jolie vue sur Weinberg Park, la tour d'Alexanderplatz au loin. SMS de Joseph. Possible in my apartment only. Because I'm handicapped. Ce Joseph a l'air sympathique. Il prévoit un truc à trois avec son...
Bon allez, le truc à trois.
Bon, bref. À toi.
SMS Joseph. Possible in my apartment only. Because I'm handicapped. Monday, I've got operation at my left knee. Joseph. Ce Joseph a l'air sympathique. Il prévoit un truc à trois avec son ami polonais plutôt sexy. Le handicapped et l'adresse dans Lichtenfeld font un peu peur, mais la curiosité l'emporte et je m'engage pour le lendemain. Ok, you're welcome. My address, District Lichtenfeld, Ostpreussedam, 18. 14h. Ok for you? Et même si je meurs d'envie de retrouver au plus vite Sexy Wayne et ses bras puissants, rencontrés ici l'année dernière, je lui annonce juste mon arrivée, pour l'instant. Nous partons pour Kreuzberg. Et après une promenade délirante vers les terrains vagues de Yorkstrasse, nous trouvons finalement l'immeuble vieux Berlin des archiducs. Je les retrouve toujours avec plaisir. Leur utopie d'exil d'artiste prend corps. Tant ils incarnent cette bohème européenne, sophistiquée et exigeante, qui, aussi longtemps qu'elle existera, nous protège de la barbarie. Dîner à l'italien en bas de chez eux, Kreuzbergstrasse.
La mélancolie de Berlin me reprend, m'étreint. La nostalgie de l'histoire.
Paris.
Mais Wayne
1er juillet 2014.
Tout contre moi.
Je me dépêche depuis ce matin 7h pour être à l'heure au point éphémère. J'ai quand même pu trouver un moment pour skyper avec Lou. Je suis fière de mon fils, si audacieux, si créatif, et qui vient d'être admis dans une excellente école d'art à Lausanne. La performance commence à 17h et Vincent et Gilles ne m'ont pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il s'agit de journaux intimes. Ça tombe bien. De toute façon, depuis que nous avons tourné ensemble, j'ai toute confiance en lui.
Barbellion, qui est marrant aussi.
Tu peux en faire 3-4 en une fois. Comme ouais,
okay. Journal de Julien Green. Non, c'est Green. Hein,
non, Green. C'est Julien Green.
Ouais. C'est une blague, c'est pour un souci.
Bruxelles, le 31 juillet 2009. Nuit de rêve étrange, de réveil en sursaut, au bord de l'angoisse. La présence de Rose, à chaque fois, des images, des sensations, le désir de toucher sa peau. Je me souviens avoir rêvé d'elle à un speed dating, en t-shirt jaune. En ouvrant le journal ce matin, je tombe sur un article relatant un speed date qui a eu lieu aux Beaux-Arts jeudi soir, dans le cadre d'exposition Sophie Calle. Comme c'est étrange, ces coïncidences, dans les périodes de troubles sentimentaux. Tout est connecté, Sophie Calle, le speed date, le rêve, etc. Reste le top jaune, que j'ai vraiment visualisé. D'où vient-il ? Rêve et réalité entremêlés, troublants et désagréables, le monde à cheval sur le signe, à l'infini, l'inquiétude toujours, la joie demain, le présent que j'étreins et que j'aime. Continuez.
Je voudrais me fondre, m'évaporer, mais misérablement j'existe moi aussi. J'existe au point d'être envahi par une nouvelle détresse, celle que suscitent en moi les quelques mesures de musique douce et pâteuse qu'a murmuré mon poste à pile. Du matin jusqu'au soir, tout n'est que désagrément, serment de dents, désespoir pour finir, car on ne peut souffrir sans une seconde de trêve. Et nous n'avons pas une seconde de trêve. On nous arrache la vie par lambeaux, on nous interdit de vivre, on nous enlaidit systématiquement. Enlaidir. Moi qui ai passé mes quelques années sur Terre à rechercher le beau dans tout. 22 juillet 1958, journal d'un appelé d'Algérie.
Berlin, 30 juillet 2009. C'est le jour du départ. Christophe prend l'avion bien avant moi, mais je décide de gagner avec lui Tegel où j'attendrai tranquillement mon vol de 16 heures en peaufinant ce journal et en faisant mon grand retour sur ber.com que j'ai un peu délaissé depuis l'arrivée à Berlin. Café dégoûtant et cher, sandwich idem, dans la cafétéria bondée de Tegel. Christophe a passé un mois ici et il fait le point. Il est triste, mais ma présence le retient de pleurer. Et nous traçons des plans sur le mois d'août à venir. L'heure du vol de Christophe arrive et je le laisse au portillon de sécurité. Je suis seul maintenant et je traîne dans Tegel, que au distributeur de billets, cartouches de cabinet, les anciennes blondes chichiteuses de l'Est auxquelles la dimension scatologique du mot aura échappé. En réalité, je ne fais que reporter le seul geste que j'ai vraiment envie d'accomplir. Je sors fumer sur le terre-plein du lounge, je fais les 100 pas, je me lance, à l'aveugle, à l'instinct. SMS de Vincent à Simon. 20h au canal, chez toi. V. Je ne suis même pas certain qu'il soit à Paris, tant nous nous sommes ingéniés à nous croiser sans nous voir depuis le début de l'été. Mais je n'en peux plus. J'ai besoin de lui, de son corps endormi à côté du mien. J'ai peur. Peur qu'il ne veuille plus de moi, de mon inconstance, de ma légèreté. Qu'il veuille se consacrer définitivement à sa famille retrouvée, à son rôle de grand-père attendri. Rien qui soit une surprise. Je sais, c'est ici inéluctable. J'ai même tout fait pour ne pas prendre trop de place. Mais l'idée d'une vie entière sans Simon est insupportable. Léger retard à l'arrivée à Orly-Ouest. Orlyval, RER. Je m'effondre sur le lit du boulevard Bonne Nouvelle sans défaire ma chemise. J'attends encore une réponse, un signe. SMS Simon, plutôt 20h30 au canal, SVP. Tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Il faut que j'y aille, j'y vais. Métro Louis Blanc, presque désert, soleil. Simon, ta main posée sur ma tête dans la tiédeur de la nuit. On a retiré le drap. Je sens sur mon épaule les battements réguliers de ton cœur. Il me traverse.
Je me suis donc lancé de manière empirique à la recherche des journaux réels, comme un sociologue ou un journaliste. J'ai fait des enquêtes par questionnaire dans des lycées, des universités. Et j'ai publié dans la presse un appel au témoignage. 47 personnes m'ont répondu. Dans les pays de tradition protestante, le journal est une pratique banale et ouverte. En pays catholique, sa pratique très répandue aussi, est néanmoins suspectée et du coup plus secrète. Il semble qu'elle y soit beaucoup moins répandue, qu'elle apparaisse même plutôt étrangère à des civilisations qui font davantage de place à l'oralité, au conte et à l'expression collective d'un « nous ».
Berlin.
Philippe le Jeune, Paris, 1er juillet 2014.
Donc le août.
18 juillet.
New York.
21 juillet.
Simon.
Puis.
Simon.
Simon.
Catherine Petit.
Simon.
Rose.
Gide.
Vincent.
Lars von Trier.
Gilles Collin.
Moritz.
Rosa Luxembourg-Platz.
Juillet 2009.
Simon.
Rose.
1er juillet 2014.
Weinberg Park.
Beyrouth.
12 juillet 1958.
Ashrafi.
Alexanderplatz.
Klausmann.
Puis.
Rosenthalerplatz.
3 juillet 2014.
Bonnefait.
Paris.
Moritz. Knopfelsout.
Rose.
Simon.
Rose.
Grutzka.
Simon. Catherine Pozzi.
Lucas.
Alexandre. Weinberg.
Valkyrie.
Catherine Pozzi.
Paris.
Berlin.
Gilles
Croix. Kreutz. Juillet 2009.
Rose.
Saint-Germain.
Berlin. Berlin. Christophe.
Denis.
Rose.
Alexandre.
Moritz.
Simon.
Berlin. Gilles Croix. Kreutz. Juillet 2009. Paris.
Berlin.
Catherine Berlin.
Alexandre.
Rose.
Simon.
Ce ne sont que des mots. Ce qui est sûr, c'est le temps qui passe. La vérité du temps qui passe. Des mémoires qui flanchent. Des SMS. Le temps s'en va, hélas. Et nous en allons.
Une création radiophonique de Vincent Dieutre et Gilles Collard. D'après leur livre 0709x2, paru au Cercle d'Art dans la collection A. Réalisation Manouchak Fachaï. Avec les voix de Johanna Price et Olivier Martineau et la participation de Garance Clavel. L'essai de Philippe Lejeune, Écrire sa vie, est disponible aux éditions Mot Conduit. Remerciements à Julie Brenta et Julien Sigalas, Antoine Villose, Denis Forget, Joseph Arthur, Le Point Éphémère, Virginie Devilliers, Jacques Socher, Salut Public et bien sûr, Rose et Simon.
Attaché d'émission Inès de Bruyne, Alice Ramon, prise de son et mixage Bruno Mourlan, coordination Irène Melianenko.
Vous pouvez réécouter, podcaster 07 09 x 2 projet radiophonique par Gilles Collard, Vincent Dieutre et Manouchak Fachaï. Tout est sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, Gilles Mardi-Rossian fait le portrait d'un homme singulier, Sandro Romney. Sandro a été victime d'un AVC et retrouve petit à petit les mots, la parole, le micro en sera témoin. C'est l'atelier de création radiophonique « Je n'avais pas la parole » et entre-temps. En attendant, vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, il sera minuit et c'est l'heure des nuits.